Alors, ce matin, on reste dans Exode. Ça va peut-être avoir l'air d'un passage étrange pour la fête des mères, en même temps, pas tant que ça. Parce que une des manières qu'un parent, qu'une mère, démontre le plus son amour, c'est par sa patience. Une des manières qu'un parent démontre le plus son amour pour ses enfants, c'est par sa patience. Un parent impatient, qui s'impatiente, communique difficilement la grâce de Dieu. Et dans le passage de ce matin, qui est dur parce qu'on est en train d'entrer dans les plaies d'Égypte, donc c'est troublant, Dieu est en conflit, Pharaon est en conflit avec Dieu, le peuple va souffrir de l'entêtement de Pharaon. Et éventuellement, Pharaon lui-même va souffrir de ça. Et pourtant, Dieu va nous montrer sa grâce à travers sa patience ce matin, malgré notre entêtement. Et souvent, Dieu nous montre sa grâce envers nous grâce à sa patience, malgré le fait qu'on a la tête dure et le cou raide. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence ce matin. On a à cœur les mamans qui sont tellement précieuses pour nous, Seigneur. Mais on a à cœur surtout de te connaître toi ce matin. Viens, Père, parler à nos cœurs par ta parole. Viens disposer notre esprit à recevoir ce que tu veux nous donner personnellement, Seigneur. Au-delà du texte, tu as un message que ton esprit veut appliquer, tirer de ce passage, éclairé par ton esprit, dans chacune de nos vies, Seigneur. Et ce passage-là nous parle de grâce, de patience, d'obéissance. Nous parle de l'entêtement du cœur humain à te résister, Seigneur, et à se priver de tes bontés. Viens, Seigneur, attendrir notre cœur ce matin à travers ta parole. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
Bon matin. Donc, la lecture de ce matin est dans Exode, le chapitre 7, les versets 14 à 25, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Exode 7, versets 14 à 25. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. » Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. » Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amadeaux. Elles deviendront du sang. » Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison. Il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve.
Merci, Julie. Moi, j'ai eu une mère très patiente. En même temps, elle me ressemble un petit peu, ou je lui ressemble un petit peu, du côté un peu colérique, ma maman. Désolée, maman. Mais vraiment patiente. Vraiment patiente, parce qu'elle a eu 2 enfants au cou raide, ça, c'est clair. Puis mon épouse est une femme patiente. Beaucoup plus patiente que moi. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'entoure de personnes patientes comme ça, hein? À travers la patience, Dieu nous montre sa grâce. Dieu est patient avec nous. Une des plus belles manières, les plus fréquentes, les plus constantes dans nos vies, où Dieu nous montre sa grâce, c'est dans sa patience envers nous. Vous savez, toutes les fois où Dieu vous a dit quelque chose, puis vous n'avez pas obéi, puis il ne vous a pas châtié, il ne vous a pas frappé. Il y a une série de choses, si je m'assoyais avec chacun d'entre vous, si on prenait des cafés ensemble, on pourrait faire la liste des choses dont Dieu vous parle depuis des années. Littéralement. À travers les Écritures, à travers des prédications, à travers des circonstances, parce que vous refaites la même stupidité, je refais la même niaiserie, avec les mêmes conséquences que ça entraîne, puis je dis, plus jamais je vais le refaire, mais c'est n'importe quoi. On pourrait tous faire la liste de ces choses-là. Et probablement que pour la majorité d'entre elles, on pourrait écrire les manifestations de la patience de Dieu. Toutes les fois où les choses n'ont pas eu les conséquences qu'elles auraient pu avoir, désastreuses parfois dans nos vies. Une des manières les plus constantes et les plus fréquentes que Dieu montre sa grâce dans nos vies, c'est par sa patience, littéralement. Et Dieu va manifester de la patience envers Pharaon, et par le fait même, il va lui manifester sa grâce. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La grâce de Dieu le conduit à la patience devant nos indifférences et nos désobéissances. Laissons nos cœurs s'attendrir par ce Sauveur merveilleux. Je répète ça. La grâce de Dieu le conduit à la patience devant nos indifférences et nos désobéissances. Laissons nos cœurs s'attendrir par ce Sauveur merveilleux. Parlons premièrement de l'obéissance. Ça, c'est un mot qui, c'est comme ça graffigne en dedans. Hein? L'obéissance, ça a l'air tellement religieux, légaliste. On peut le voir comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce passage-là? Bien, le peuple d'Israël est esclave en Égypte depuis plus de 400 ans. Et donc, depuis plus de 400 ans, il y a une forme d'abus qui est là, très sévère. Et c'est le peuple de Dieu. Dieu avait fait des promesses à la descendance d'Abraham. Et donc, Dieu vient pour accomplir ses promesses. Et puis, il vient pour mettre fin à ces abus-là, littéralement. Puis, libérer son peuple et conduire vers la terre promise. Et Dieu prend un serviteur faible, fragile, au départ incompétent, rebelle, constamment en train de discuter avec Dieu. Et puis, il va le former, il va le préparer à être obéissant. À commencer à apporter le message de Dieu, pas d'autre message, le message qui vient de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on a vu jusqu'à présent. Moïse évolue, prend de la maturité et il vient et apporte le message de Dieu à Pharaon. Maintenant, Pharaon ne connaît pas Dieu. Pharaon connaît ses dieux, ses divinités que les Égyptiens se sont inventées, mais il ne connaît pas Dieu. Et donc, Dieu va se faire connaître à Pharaon à travers Moïse. Parce que Dieu va lui révéler qui il est. Qui est ce Dieu à qui je devrais obéir? Je ne le connais pas. Je connais mes dieux auxquels je cherche à obéir. Mais ton Dieu, je ne le connais pas. Puis Moïse vient en disant, non, je ne viens pas te présenter des divinités qui ont été inventées par les hommes. Je viens te présenter le Dieu des cieux, le Créateur de tous les hommes, celui qui est le Dieu de tous les hommes, même si vous avez des faux dieux, c'est lui ton Créateur. Même si tu ne le reconnais pas, c'est lui qui te donne de vivre, de respirer. C'est lui qui connaît le jour de ta naissance, le jour de ta mort. Même si tu adores d'autres dieux, il est Dieu. Et donc, Dieu est en train de se révéler à un homme qui ne connaît pas Dieu, Pharaon, littéralement. Et Dieu va lui dire, « Tu me dois obéissance. Pourquoi est-ce que tu devrais laisser sortir mon peuple d'Égypte? C'est parce que je l'ordonne. C'est parce que c'est ma directive, parce que je suis Dieu. Je n'ai pas d'autre explication à te donner. » Et donc, Dieu réclame de Pharaon qui ne connaît pas vraiment Dieu, qui va le découvrir dans la contestation. Il va contester avec Dieu et Dieu va se faire connaître à lui de plus en plus. Dans cette plaie-là, Dieu va se faire connaître comme celui qui est plus grand que le Nil. Dieu va transformer par son prophète, il va transformer l'eau du Nil et pour autant que j'en comprends, toutes les eaux qui étaient disponibles en sang. Mais il faut savoir que pour les Égyptiens, le Nil, c'est tout. Le Nil, c'est la vie. C'est ce qui nourrit les plaines. C'est là qu'on pêche le poisson. C'est là qu'on va tirer notre engrais même pour engraisser nos terres. Le Dieu du Nil était adoré par les Égyptiens. C'est le Dieu suprême, pour ainsi dire, parce que c'est de là que vient la vie. Et Dieu va lui dire à travers mon berger Moïse, avec son bâton de berger, ce vulgaire berger, je vais te faire connaître que le Dieu de Moïse est plus grand que tous les dieux que tu peux concevoir. Il est une source de vie plus certaine que votre source de vie, parce qu'il règne sur le Nil. Et donc, Dieu est en train de se faire connaître à Pharaon, puis il est en train de dire, « Tu me dois obéissance. » C'est un des thèmes les plus importants de la Bible, l'obéissance, saviez-vous ça? En fait, si on était obéissant, il y a plein de choses qui n'ont pas à être écrites dans les Écritures. Je pourrais résumer toutes les Écritures avec le mot « obéissance ». Après ça, je vais décliner ça, notre incapacité à obéir, notre difficulté à obéir, le fait qu'on ne veut pas obéir, le fait que Dieu pourrait nous châtier parce qu'on est en train de désobéir, mais Dieu veut faire grâce. Alors quelqu'un d'autre va obéir, quelqu'un va être fidèle pour obéir, Jésus-Christ va être fidèle pour obéir, il va aller mourir sur la croix afin que les désobéissants puissent vraiment goûter et connaître la grâce de Dieu, puis être sauvés. Le mot « obéir », le thème de l'obéissance, et partout à travers les Écritures. Et si on veut être honnête, pour nous, c'est contre nature. Si ce n'est de la grâce de Christ, si ce n'est de l'Esprit-Saint qui vient nous donner une nouvelle nature, lorsque tu deviens chrétien, tu reçois une nouvelle nature, mais sans ça, l'obéissance, c'est contre nature. Parce qu'on est pécheur. Nous avons hérité de nos pères Adam et Ève, nous avons hérité une nature pécheresse. L'obéissance, ça nous fatigue, ça nous horripile, ça nous graffigne en dedans. C'est comme si ça dit « je t'enlève ta liberté » alors que Dieu dit « non, je veux te rendre libre, marche dans mes voies, je vais te donner la vraie liberté. » Comme un enfant qui dit « laisse-moi traverser la rue en courant, je veux être libre. » Mais oui, je veux que tu sois libre, je vais t'interdire de traverser la rue en courant. Parce que je veux que tu sois libre d'avoir encore des jambes, de courir encore, de marcher encore, de vivre encore demain. On comprend ça avec notre raison. On est capable de comprendre que Dieu dicte de bonnes choses, mais à l'intérieur, il y a un conflit en nous qui dit « Tu viens me brimer ». Maintenant, si Dieu était comme les dieux que s'inventent les hommes, ça serait vrai. Les dieux que s'inventent les hommes sont imparfaits. C'est les hommes qui les imaginent, c'est les êtres humains qui les imaginent. Les dieux que s'inventent les hommes ressemblent aux êtres humains. C'est des êtres fourbes, égoïstes, abuseurs. Allez étudier les divinités grecques, vous allez voir, c'est pas si glorieux que ça. Je veux dire, ils peuvent nous plaire, puis on peut en faire des super-héros, même faire des séries de films de super-héros inspirés de ces divinités-là. Mais pourquoi ils nous plaisent? Parce qu'ils sont aussi tordus que nous, en réalité. C'est juste qu'ils sont plus puissants, fait qu'ils ont la capacité d'être plus forts dans leur malice ou dans leur bonté. Mais Dieu n'est pas ainsi. Le Dieu qui se révèle dans les Saintes Écritures est parfait. C'est lui qui a créé l'univers. Quand tu regardes un coucher de soleil et que tu le trouves splendide, ça te parle des perfections de Dieu. Moi, j'aime énormément la peinture. Je peux vraiment être ému devant une toile et pourtant, je n'ai pas encore trouvé aucune toile dans aucun musée qui va m'émouvoir autant que les nuages dans un ciel bleu. Il n'y a rien qui m'émeut autant que ça comme tableau, comme toile, parce que ça me parle des perfections de Dieu. Le Dieu qui se révèle dans les Écritures est celui qui a créé l'univers. Celui qui a créé un univers parfaitement ordonné, qui tient. Les scientifiques sont émerveillés par la beauté et la complexité et la richesse de ce que Dieu a créé. Qu'ils le reconnaissent ou non comme l'auteur de tout cela, il n'en demeure pas moins émerveillé. Je veux dire, ce qui fascine la société contemporaine, c'est d'étudier ce que Dieu a créé. Que tu reconnaisses le Créateur ou non, on est émerveillé devant ce qu'il a fait. Comme moi, je peux être émerveillé devant un tableau, devant une sculpture, puis dire « mais que c'est splendide, si t'aimes les voitures, c'est une belle voiture, je ne sais pas ce que t'aimes, mais t'es là puis tu dis « mais que c'est beau! » Dieu n'est pas comme les dieux que s'inventent les hommes. Il est parfait. Il est non seulement parfait dans sa création, il est parfait dans sa nature. Il est parfaitement vertueux. Ça veut dire que Dieu est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il pense est juste. Il n'y a pas d'injustice en lui. C'est lui qui t'a donné le mouvement et l'être. Tout ce que tu peux concevoir de plus noble et de plus grand, si vraiment c'est noble, c'est Dieu qui l'a conçu. Alors j'espère que vous pouvez comprendre que le mot « obéissance » est très approprié lorsqu'on parle d'obéir à un tel être. On ne parle pas d'obéir à Yannick, on ne parle pas d'obéir à des hommes qui sont pécheurs, bien qu'on doive honorer les autorités, parce qu'ils reflètent Dieu à quelque part. Mais là, je vous parle d'obéir au Créateur des cieux et de la terre, qui se révèle à Pharaon puis qui dit, « Pourquoi est-ce que tu m'obéirais? Parce que je le réclame. » Et certains d'entre vous, probablement, vous dites, « Je suis pas bien avec ça, moi. L'argument ne me convainc pas. » Parce que si tu n'as pas l'Esprit Saint, c'est contre nature pour toi d'aimer ce concept-là de l'obéissance. Puis, je m'en confesse, si tu as l'Esprit Saint, tu vas souvent lutter encore avec ça. Parce qu'on demeure pécheur. Et pourtant, tout aurait été si simple pour Pharaon. Tout aurait pu être si simple pour Pharaon. Ça commence avec des avertissements. Ça commence sans conséquence. Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon. Pharaon aurait pu obéir. Imaginez toute la souffrance qui aurait été épargnée. Parce que tout ça va se terminer en catastrophe. Tous les premiers-nés d'Égypte vont mourir. Tout aurait pu être tellement simple s'il avait obéi. Et c'est comme ça dans notre vie. Il y a plein de domaines où Dieu nous parle. Tout pourrait être tellement simple. Si on obéissait. Imagine là, si tu es chrétien. Des chrétiens comme moi, là, je vais comme imaginer ma version en moi de la journée parfaite d'un chrétien. Tu sais, je me réveille le matin, je remercie le Seigneur pour la journée qui va commencer, je lui confie ma journée, je m'en vais méditer les Écritures, je m'en vais lire les Écritures. Là, je dis au Seigneur, tout ce que tu vas me donner à faire aujourd'hui de bon, je vais le faire. Et toutes les tentations qui vont se présenter à moi de faire le mal, je vais y renoncer. Et à chaque moment de la journée, quand ma journée avance, tout ce que je fais, c'est discerner. Je vais partir pour le travail, c'est bon, je m'en vais travailler, je vais contribuer à la société, je vais supporter ma famille, c'est bon, je m'en vais là-bas. Il y a quelqu'un qui me coupe sur le trafic, dans le trafic, puis j'ai le goût de m'emporter, parce que là, j'ai une tentation. Mais là, je résiste à ça, parce que j'obéis au Seigneur, puis j'écoute le Saint-Esprit, puis je pêche pas, fait que tout va bien. Non, mais imaginez, toute la journée, tu fais comme ça, comme chaque intersection où j'ai une décision à prendre, la décision que je prends, c'est obéir, résister aux tentations, faire le bien, résister aux tentations, faire le bien. Toute la journée, je termine ma journée en disant, « Wow, merci Seigneur, t'es merveilleux. » Honnêtement, ça serait quand même plus simple comme vie, non? Vous avez juste à passer la dernière semaine en revue, toutes les fois où c'est pas ça que vous avez fait. Est-ce que vous avez compliqué votre vie, oui ou non? L'obéissance, tout pourrait être tellement simple si on obéissait. Parce que ce que Dieu nous demande de faire émane d'un être parfait, émane de lui. C'est le bien, c'est la meilleure chose pour toi et pour tout le monde de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que Dieu est parfait. Tout aurait pu être tellement simple. Mais Pharaon est entêté et résiste à Dieu. On vient de parler de l'obéissance. Parlons maintenant de la patience de Dieu, là où sa grâce vient se manifester. La grâce de sa patience. Exode 7, versets 15 et 16. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. » Et qu'est-ce que Pharaon va faire? Il va refuser. Dieu m'a envoyé une autre plaie. Et qu'est-ce que Pharaon va faire? Il va refuser. Puis Dieu va envoyer une autre plaie. Et qu'est-ce que Pharaon va faire? Il va refuser. Est-ce que vous avez déjà réalisé qu'à travers ces plaies, Dieu est en train de manifester la grâce de sa patience? Est-ce que vous voyez que Dieu aurait pu aller à la dixième tout de suite en partant? Ça fait 400 ans que son peuple est esclave. Il y a des moments dans l'histoire de l'Ancien Testament où Dieu pulvérise des peuples entiers. Dieu aurait pu dire, la terre promise est ici, les amis, en Égypte. Tous les Égyptiens vont mourir cette nuit, vous allez les enterrer et on va occuper l'Égypte. Dieu ne demande même pas à Pharaon de croire en lui, vraiment, juste de laisser aller son peuple. C'est la patience de Dieu qui est là à tous les jours, constamment dans nos vies, parce que nous connaissons beaucoup de ce que Dieu attend de nous. Quand je m'assois avec quelqu'un pour discuter un à un puis faire du coaching, j'aime poser cette question-là, puis j'aime essayer de discerner avec la personne. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dernièrement? Qu'est-ce que l'Esprit-Saint t'a dit dernièrement à travers sa parole, à travers des circonstances, à travers une conviction très forte qui est venue dans ton cœur? Dieu t'a parlé. Tu sais que ça vient de lui parce que ça te porte au bien et c'est conforme à sa parole. C'est Dieu qui t'a parlé. Mais combien de fois on n'écoute pas? Et Dieu est patient. Dieu est gracieux. Je suis tellement convaincu de la patience de Dieu envers moi que chaque année qui se termine, je vous le dis, je pense à chaque année. Chaque année qui se termine, puis là je dis, je pense que je vais être encore pasteur l'année prochaine. Puis ce n'est pas des blagues que je fais. Je dis, Seigneur, mais que tu es merveilleux de vouloir te servir de moi encore une autre année. Je ne comprends pas. Parce que je suis conscient que je suis tellement, tellement, tellement imparfait, tellement rebelle par moments. Il y a des choses sur lesquelles tu me reprends depuis le début de ma conversion. Ah, puis je fais des petits pas par en avant, mais boy, que c'est long à changer. Boy, que je suis rebelle. Dieu manifeste la grâce de sa patience envers Pharaon à travers chacune des plaies qui vont venir. Et les conséquences de ces plaies-là vont être énormes, dévastatrices. Mais ce que j'aimerais que vous réalisiez ce matin, c'est que c'est une manifestation de la grâce de Dieu envers Pharaon, parce que c'est l'expression de sa patience. Dieu est tellement patient envers nous. Il est tellement patient envers les hommes. Peut-être que tu es là et tu cherches Dieu un peu, puis tu dis, oui, peut-être, le Dieu de la Bible, OK, peut-être pas. Moi, je regarde les guerres, je regarde ces affaires-là, puis je ne sais pas où est-ce qu'il est. Les Écritures sont claires. Un jour, tous les hommes, tous les êtres humains vont passer en jugement devant Dieu. La justice va s'opérer avec une précision et une exactitude où Dieu va tenir en compte, va prendre en considération chacun de nos motifs déviants, chacune de nos pensées cruelles, chacun de nos gestes égoïstes, chacun de nos péchés. Tous les hommes vont comparaître pour ça. Et si Dieu ne frappe pas tous les hommes conséquemment à nos fautes actuellement, c'est parce qu'il use de patience, la patience d'une mère qui ne corrige pas un enfant à chacune de ses fautes. La patience d'une mère qui n'est pas en train de suivre son enfant dans la maison juste pour pouvoir y en envoyer une dès qu'il y a une faute. Dire, là, tu t'en vas dans ta chambre. Là, tu t'en vas dans ta chambre. Non, on choisit nos batailles comme parents, c'est une des premières affaires que tu apprends. Hein? Tu choisis tes batailles, puis il y a deux raisons pour lesquelles tu choisis tes batailles. Un, parce que tu ne pourras pas toutes les gagner. Ça, c'est la vérité, tu vas t'épuiser. Mais deux, c'est parce que cet enfant-là est fait de la même nature que la tienne. puis je veux refléter auprès de mon enfant la grâce que Dieu reflète envers moi. On va avoir des vraies discussions ensemble. Puis des fois, il va y avoir des conséquences. Mais ce n'est pas vrai que tu vas toujours avoir ce que tu mérites. Parce que Dieu, dans sa bonté, ne me donnera jamais ce que je mérite. Il l'a donné à Christ sur la croix. Il l'a donné à Christ sur la croix. La grâce de Dieu se manifeste souvent au quotidien dans sa patience, alors qu'il nous parle et nous reprend. Il nous invite à laisser nos cœurs s'attendrir par cette grâce, puis à obéir enfin, à obéir enfin. Et si tu es à cet endroit-là, puis tu vois ça, tu peux simplement dire au Seigneur, « Seigneur, accorde-moi la grâce de t'obéir enfin. Viens, Seigneur, me convaincre entièrement de mon péché, Seigneur. Viens me montrer combien je dois me repentir profondément. Viens faire cette œuvre-là. On dirait que j'entends plus ta voix. On dirait que je l'entends, elle est loin, mais elle ne m'interpelle pas. J'ai pas le goût vraiment. On dirait, je me demande combien de temps il va falloir que je souffre encore avant vraiment d'expérimenter une repentance. Et Dieu est sensible à des prières semblables. Parce que c'est déjà une prière de repentance. Celle qui confesse, « Seigneur, je ne parviens pas à marcher dans ta sainteté, viens à mon secours. » Les psaumes sont remplis de ça. Le psaume 119, c'est une prière constante de ça. « Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Viens conformer mon cœur à ta loi. Viens disposer mon cœur à faire le bien, Seigneur. » La grâce de Dieu se manifeste dans nos vies à tous les jours à travers la patience de Dieu. Et c'est ça que Dieu est en train de révéler à Pharaon. Il est en train de lui révéler « Je suis Dieu et tu me dois obéissance parce que je suis Dieu. » Je n'ai pas d'autre explication à te donner. Dieu a enseigné ça à Job, Dieu a enseigné ça à David, Dieu a enseigné ça à plein de serviteurs. Et Dieu l'enseigne à Pharaon. Mais Pharaon est entêté et Dieu est patient à travers chacune de ses plaies. Et au fur et à mesure qu'on va avancer à travers ces jugements de Dieu sur l'Égypte, rappelez-vous que c'est une manifestation de la grâce de Dieu à travers sa patience. Et je t'invite ce matin à chercher dans ta vie, là où Dieu actuellement est en train de montrer sa patience envers toi parce qu'il t'a parlé. Parce qu'il t'a parlé. Et pourtant, il ne t'a pas châtié. Mais il t'appelle au bien, puis tu résistes. Dans la patience de Dieu, moi, je vois un Dieu qui veut séduire notre cœur. Pour bien des gens, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez un Dieu qui est sévère, qui intervient, tout ça. Mais c'est parce que vous ne voyez pas combien Dieu est patient, combien Dieu est doux, combien Dieu passe par-dessus les fautes, combien Dieu revient. On est en train de cracher au visage de celui qui nous donne de respirer, de vivre, de celui qui fait que j'existe et que je vais exister pour l'éternité. Et il me donne encore un autre respire. Il me donne de me réveiller encore une autre journée. Et là, Dieu nous appelle. Littéralement, Dieu nous fait la cour. Je ne suis pas en train de diminuer Dieu quand je fais ça, comme si Dieu avait besoin de nous. Il n'a tellement pas besoin de nous. Dieu n'avait pas besoin de toi pour être heureux. Il était totalement heureux. Et pourtant, Dieu nous fait la cour. Dans Osée, il dit, « Je vais te conduire au désert. » En parlant du peuple d'Israël qui est rebelle, je vais te séduire encore une fois. Je vais te faire la cour, littéralement. Et ces grands moments qui sont dramatiques, où on voit comment Dieu va déployer des énergies extraordinaires pour attirer notre attention, puis dire, viens, viens à la maison, viens marcher avec moi. Je veux ton bien, je suis là pour toi, je veux prendre soin de toi. La croix qui est tellement graphique, qui est tellement intense, c'est une histoire passionnelle. Les grandes histoires passionnelles, les grands romans passionnels qu'on écrit ont tous la vie et la mort en jeu. Christ est mort sur la croix avec passion. Et c'est pour ça que les chrétiens l'appellent la passion du Christ. Dieu nous fait la cour. Pas parce qu'il est petit et qu'il est comme nous. Pas parce qu'il a besoin de nous. Parce qu'il est pure bonté. Et avant que je donne ma vie à Christ, Dieu m'a fait la cour pendant un an et demi. Je savais qu'il me courait après. Je le voyais, je voyais des gaffes que je faisais. Je voyais sa grâce qui me préservait. Je savais qu'il m'attirait à lui. Je savais jusqu'au jour où j'ai cédé. Puis j'ai dit, « OK, Seigneur, j'arrête. J'arrête, je rentre à la maison. C'est toi qui diriges ma vie. » Christ est devenu mon époux. Je suis entré dans une alliance avec Dieu. J'ai dit, c'est toi qui gouvernes ma vie, Seigneur. Et Dieu le fait avec nous, en église. Lorsque tu viens à l'église, puis tu chantes des chants de louange, puis là, la grâce est là, l'amour de Dieu est là, puis ton cœur n'est pas vraiment là, mais tu viens, tu chantes avec nous, puis là, tu te laisses porter par la louange, puis tu dis, Seigneur, c'est vrai que tu es beau. Dieu est en train de se servir des chants de louange de son peuple pour te faire la cour. Il est en train de courtiser ton cœur pour que tu rentres à la maison, que tu tombes en amour à nouveau avec lui. Et c'est ça qu'il fait dimanche après dimanche à travers la prédication de sa parole. Lorsque le prédicateur s'en va, puis il étudie le texte, puis il s'en va dans la prière, puis il dit, « Seigneur, je ne veux pas être hypocrite, je veux que tu me parles à moi, je veux être honnête, mais je veux que tu parles à cette église-là, parce que tu as un message pour cette église-là. Ce texte-là a été prêché des millions de fois aux chrétiens depuis des milliers d'années, mais tu as un message pour cette église-là. Viens te servir de moi pour parler. » Et lorsque vous m'accrochez après, vous accrochez le pasteur, puis vous dites, « Écoute, c'était pour personne ici le message, c'était pour moi. » C'est pas vrai. Mais c'était pour toi, ça c'est vrai. Parce que le Saint-Esprit voulait te parler à toi. Parce que Dieu est en train de te faire la cour. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu est patient. Parce que Dieu est gracieux. Parce que Dieu nous châtie très peu. Ce serait encore l'expression de son amour. Dieu t'a châtié dernièrement. C'est encore l'expression de son amour. Comme lorsque je corrigeais mes enfants. C'est encore l'expression de son amour. Mais Dieu manifeste sa grâce, entre autres, dans sa patience. On a vu l'obéissance à Dieu, on a vu la patience de Dieu. Maintenant, parlons un instant de l'indifférence. Ou de la folie de l'indifférence. Exode 7,14, l'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. » Dans la Bible du Sommeur, c'est traduit ainsi, « Le Pharaon est trop entêté. » C'est quoi être têtu? Maintenant, regardez le verset 23. C'est troublant. Puis en même temps, ça nous ressemble tellement. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison. Après que la plaie a été déployée, après que toutes les eaux du pays ont été transformées en sang, Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et il ne prit pas même à cœur ces choses. Verset 24-25, tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. La folie de l'indifférence du cœur humain. Ça m'a vraiment touché quand j'ai lu ça. Il ne prit pas même la chose à cœur. Dieu lui parle, Dieu fait des miracles. Ça ne le trouble même pas. Son peuple est dévasté. Parce que nos indifférences ont souvent beaucoup de conséquences dans les vies autour de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nos indifférences à ce que Dieu nous commande de faire ont souvent énormément de conséquences. Et plus tes responsabilités sont grandes, plus les conséquences sont nombreuses. Dieu prend le temps d'avertir Pharaon. Il n'a pas châtié, il a averti. Puis Pharaon a résisté. Alors Dieu frappe tout le pays. Et Pharaon ne prend même pas la chose à cœur. La folie de l'indifférence fait qu'on devient sans considération pour Dieu et pour toutes les conséquences dans nos vies et dans la vie des gens autour de nous. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous parle depuis des années. Dieu nous met au défi de prendre des choses au sérieux, de grandir avec lui, de se repentir. Puis notre cœur devient indifférent, comme un enfant qui dit « Je le sais, je le sais, Je le sais, je le sais, je le sais. Ça fait 1000 fois que tu me le dis. Mais ces choses-là ont des conséquences. Ces choses-là ont des conséquences parfois catastrophiques. Donc, Dieu est gracieux, Dieu est patient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Si Dieu t'a donné un commandement, si Dieu t'a dit de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, ce n'est pas parce que Dieu te préserve de certaines conséquences qu'il n'y aura pas de conséquences. La folie de l'indifférence fait qu'on devient non seulement insensible à la voix de Dieu, mais à toute la souffrance que ça peut entraîner autour de nous, notre indifférence. Voyez-vous, à l'Église de l'Espoir, on parle beaucoup de l'Évangile, on parle beaucoup de la grâce, et parfois on peut avoir l'impression, on pourrait croire que cette emphase sur la grâce, c'est comme pour se laisser aller. C'est comme pour se dire, de toute façon, c'est couvert par la grâce de Christ. Mais ce n'est pas dû tout ça. Ce n'est pas dû tout ça. C'est que je ne peux pas trouver la capacité de marcher dans les voies de Dieu sans la grâce de Christ. Je ne peux pas trouver la motivation pour revenir à marcher dans les voies de Dieu quand je me suis écarté avec de bons motifs, pas par orgueil, pas pour être mieux que les autres, pas pour me présenter devant Dieu et dire « Regarde, je le mérite mon salut ». Sans la grâce de Dieu, c'est impossible. Parce que je ne trouverai pas la force de me repentir de mes péchés vraiment sans la grâce de Dieu. Parce que les gens autour de moi ne trouveront pas la force de m'aimer et d'être patients envers moi sans la grâce de Dieu. Parce qu'une église qui n'est pas centrée sur l'Évangile et sur la grâce de Dieu va nous amener dans ce rapport à l'obéissance qui va être tellement malsain, que ceux qui sont des bons petits soldats vont donner l'apparence de l'obéissance. Eux autres, ils sont capables, ils marchent droit, ils obéissent, ils font ce que tu dois faire. Oui, je vais faire ça. Le pasteur nous a dit qu'il fallait faire ça. Moi, je le fais. Mais le cœur n'est pas nécessairement là. Je l'ai dit tantôt, Dieu nous fait la cour. Ce que Dieu veut, c'est une relation passionnelle avec nous. Dieu ne veut pas juste des bons petits soldats. Il veut un cœur qui est consumé de passion. Il veut un cœur où il voit un amour véritable pour lui. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je ne sais pas si Dieu te parle ce matin de domaines dans ta vie où tu es tombé dans l'indifférence. Et tu dis, Dieu ne me parle plus. On devient ingrat dans ces moments-là. On se tourne même vers Dieu puis on dit, dans le fond, c'est de ta faute. J'entends plus ta voix. Si tu me donnais un cœur zélé, je marcherais avec toi. Et pourtant, c'est nous qui avons attristé l'esprit pendant tant d'années, des fois. Est-ce que Dieu te montre des domaines où il t'interpelle depuis longtemps? Tu sais ce qu'il attend de toi. Tu sais et tu comprends bien que ce n'est pas une question de gagner ton ciel, ce n'est pas une question simplement d'être un bon petit soldat, c'est que ce que Dieu attend de toi, c'est ce qui est parfait. Parce que ça vient de Dieu, c'est la bonne chose, c'est la meilleure chose à faire. Tu sais même dans ton fort intérieur que c'est la meilleure chose à faire. Mais ton cœur est tombé dans l'indifférence. Ton cœur est devenu fou. Fou parce que tu es indifférent à l'être qui veut ton bien de la manière la plus pure et la plus parfaite qui a jamais existé, qui n'existera jamais, Dieu. Et ce bien-là passe par ton obéissance. Maintenant, considère la grâce de Dieu envers toi qui patiente et qui patiente et qui patiente. Et ne te raconte pas d'histoire, ne crois pas que tes indifférences seront sans conséquences. Le peuple d'Égypte a payé lourdement. Il va continuer à payer lourdement. Et éventuellement, Pharaon va payer lourdement son indifférence au commandement de Dieu. Laisse ton cœur être attendri par la patience de Dieu. par sa grâce. Le Nil était une source de vie en Égypte. Ironiquement, Dieu le change en sang. Et nous savons que ce qui est devenu pour eux un objet de mort, parce qu'ils ne pouvaient pas se nourrir de ça, bien Jésus-Christ va verser son propre sang pour le pardon de nos péchés. Parce que c'est lui le sauveur. Ce n'est pas vers le Nil, ce n'est pas vers la nature, ce n'est pas vers nos dieux, ce n'est pas vers moi-même que je veux me tourner, c'est vers celui qui est la source de ma vie et de ma vie éternelle. Amen! On va prier ensemble, puis on va adorer le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es splendide. Tu es merveilleux. Ta parole est riche. Ta parole est profonde. Ta parole nous interpelle par la puissance des choses que tu fais, comment tu troubles les hommes, Seigneur. Mais en même temps, Seigneur, tu nous montres la dureté de nos cœurs par cette indifférence de Pharaon, cette dureté, cet entêtement à ne pas faire le bien, à persister à ne pas entendre ta voix, quelles que soient les conséquences dans sa vie et dans la vie des autres autour de lui, Seigneur. Oh Seigneur, comme tu es gracieux. Seigneur, ce matin, on veut célébrer ta patience, comme la patience d'une mère envers ses enfants, comme la patience d'un père envers ses enfants. Et nous voulons voir, Seigneur, dans cette patience, ta grâce, ton amour, ta bonté. Mais Seigneur, donne-nous de ne pas mépriser ta grâce. Au contraire, donne-nous d'être attendris par ta grâce, Seigneur. De ne pas s'entêter comme Pharaon, mais d'écouter, Seigneur, ta voix, d'écouter, Seigneur, ta loi, parce qu'elle est pure, parce qu'elle est bonne. Donne-nous de retourner à ces endroits où tu nous as parlé, où tu nous as dit, voici ce que j'attends de toi. Voici ce qui est la bonne chose à faire. Voici la bonne décision à faire. Donne-nous, Seigneur, de retourner là en larmes, Seigneur, reconnaissant ta patience envers nous, implorant ta grâce. Et Seigneur, si nous sommes châtiés, donne-nous de faire appel à ta grâce. De faire appel à ta grâce pour que tu restaures, parce que tu es le Dieu qui sauve et qui restaure, Seigneur. Donne-nous d'apprendre d'hommes comme Pharaon qui se sont entêtés et d'hommes comme Moïse, Seigneur, qui ont commencé à obéir. Apprends-nous, Seigneur, à trouver notre joie dans ta loi et à l'expérimenter par ta grâce, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.